I'm turning now to Psalm 65 and the first two verses, Psalm 65.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 65 et les trois premiers versets. Le psaume 65, un psaume et un cantique de David, le roi David il y a bien longtemps. Et ses paroles, ô Dieu, la louange t'attend dans Sion. Là seront rendus les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. C'est là un message dans le langage des psaumes de la part du roi David. C'est un témoignage de David et il instruit les gens, il plaide avec eux, il leur enseigne comment prier. C'est une leçon pour prier. Ceci est un psaume qui commence d'une manière curieuse en utilisant des termes qui sont difficiles à traduire dans l'original en hébreu. Ô Dieu, la louange t'attend dans Sion. Et en hébreu, c'est quelque chose dans le sens « La louange est silencieuse devant toi, ô Dieu, dans Sion. » Et c'est une illustration assez claire. Vous pouvez imaginer que peut-être qu'il y a une catastrophe dans la nation d'Israël. C'est là l'image que le roi David nous donne pour commencer son psaume. Il y a eu une catastrophe, peut-être que l'ennemi a attaqué, peut-être qu'il y a une famine, quelque chose de ce genre. Et les gens sont là, ils sont dans la détresse et ils prient. Et ils s'attendent à Dieu pour les aider. Et c'est là ce qu'il fait. Et soit l'ennemi retourne en arrière, ou alors la récolte est bonne et tout change. Et ils viennent dans le temple, un grand nombre de personnes, et ils vont louer le Seigneur. Il y aura ce jour particulier de reconnaissance. Mais cela commence avec un silence. C'est là la coutume. Tout le monde est silencieux dans la maison de Dieu jusqu'au moment où ils commencent à louer le Seigneur. Et ensuite, il y a cette louange pour le Seigneur. Et ce moment de silence est important. Même pour nous, dans l'Église de nos jours, nous venons et nous sommes silencieux devant Dieu. Cela représente l'attitude de notre cœur. Quand nous nous approchons de Dieu, toutes ces choses humaines et la complexité de notre vie, nous mettons toutes choses de côté. Si nous avons des besoins, nous arrêtons de demander à tout le monde de nous aider. Parce que maintenant, c'est le moment de venir devant le Dieu vivant. Et toute autre chose est rendue silencieuse. Que ce soit toute la foule qui est délivrée d'une grande détresse ou des individus, ils ont eu ces grandes réponses à leurs prières. Ou est-ce que c'est l'adoration ordinaire? La prière est précédée par une mise de côté de toutes les choses qui nous préoccupent pour le louer de tout notre cœur. C'est là le début de ce psaume, et ceci est important. Dans cette leçon sur la prière, et nos traducteurs ont traduit ainsi, « La louange t'attend dans Sion. » C'est là ce moment où l'on s'attend au Seigneur et nous sommes silencieux dans nos propres pensées. Et j'aimerais commencer avec le verset 3. « Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. » La prière est un instinct humain. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Dans le cœur de chaque personne, la prière est quelque chose qui est un instinct en nous. Dans des temps de grands besoins, de stress, que ce soit des soldats ou que ce soit des croyants, des incroyants, il y a ces temps où chacun ressent ce grand besoin de prier. C'est un instinct profond. Même des gens qui n'adorent pas le Seigneur de manière régulière, quand ils ont une grande détresse, ils nous disent et ils reconnaissent librement qu'ils ont crié à Dieu dans la prière. La prière est un instinct humain. Il y a ce besoin de crier à Dieu qui est infiniment puissant. La Bible nous dit que tout le monde priera au Dieu. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. La tragédie, c'est que pour tant de personnes, le moment de leur prière ne sera que de la panique et ne sera pas profond. Ils ne prieront pas Dieu pour cette communion avec lui, pour la vie nouvelle, pour marcher avec lui, pour son amour, pour son pardon. Et s'ils l'invoquent, ce sera à la fin de la vie, quand il sera trop tard, et qu'ils savent qu'ils se tiennent devant lui dans le jugement. Et c'est une grande tragédie. Mais un jour ou l'autre, tous nous prierons à Dieu à un moment donné. Dans le passé, je demandais aux gens à qui je parlais, que je rencontrais, et même des gens importants, des gens très connus, d'année en année, je leur demandais très doucement, est-ce que vous êtes un homme de prière? Est-ce que vous priez? Alors, ils étaient étonnés tout d'abord, mais vous serez étonnés de ces réponses que j'ai reçues, de personnes même importantes qui me disent « Oh oui, j'ai prié, j'ai eu ces moments où j'ai réellement prié. » Peut-être qu'ils ne prient plus, peut-être qu'ils ont laissé ces choses de côté, mais c'est un instinct humain. Tout le monde sait qu'ils doivent prier. Et dans ces moments de détresse, ils ressentent ce besoin de prier. Malheureusement, c'est uniquement en temps de détresse, de maladie grave, de peur, de tragédie, de deuil, quelque chose de ce genre. Et nous apprenons ici, dans ce psaume de David, une leçon par rapport à la prière. Et le premier point que nous voyons dans cet enseignement, c'est qu'il y a une barrière dans la prière qui nous empêche de prier Dieu, qui est mentionnée là au verset 4. « Les iniquités avaient prévalu sur moi. » Les iniquités avaient prévalu sur moi. Ce terme traduit par iniquité signifie cette perversion, ce péché qui m'a empêché de prier. Ces choses ne vous empêchent pas de prier, mais elles empêchent vos prières d'atteindre le ciel. Ce terme, être tordu, ces iniquités, toutes ces choses qui sont tordues en moi, la perversion en moi. Si je ne suis pas pardonnée par Dieu, ces choses sont un obstacle à mes prières. Le Seigneur ne peut pas entendre ma prière et vous devez savoir cela. Dieu est si bon que peut-être que parfois il entend nos prières d'urgence de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être qu'il va entendre leurs prières pour les aider, pour les encourager, pour leur donner un défi parfois. Mais l'enseignement de l'Écriture, c'est que, en général, nos iniquités sont un obstacle à nos prières. C'est ce qui est écrit ici. Les iniquités avaient prévalu sur moi et ces iniquités ont arrêté mes prières, ont bloqué la route. Le Seigneur ne peut pas entendre mes prières et répondre. Le Dieu si parfait, saint et pur. Les iniquités sont là qui sont plus puissantes que la prière. Elle est arrêtée par cette barrière de culpabilité autour de nous. Ainsi, nous n'avons pas d'accès à Dieu. Il ne peut pas entendre notre prière. Nous sommes sous le jugement. Nous sommes loin de lui, séparés de lui à cause de notre péché, de nos offenses. La Bible, du début à la fin, nous parle de certaines prières qui ont été frustrées pour cette raison même. Il y a cette barrière-là qui est un obstacle. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'une de ses paraboles, parle d'un pharisien. Et il dit ceci, ainsi c'est une parabole, il dit que ce pharisien est monté au temple pour prier. Et il a prié, il est écrit, avec lui-même. Il prie en lui-même, « Ô Seigneur, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, je ne suis pas comme ce publicain qu'il a vu là, du coin de l'œil. » Je fais ceci, je fais cela, je suis digne et je mérite. Mais le Seigneur n'a pas pu entendre sa parole, sa prière. Christ, dans la parabole, dit qu'il n'a pas été accepté, justifié par Dieu, que Dieu n'a pas pu entendre sa prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu son péché. Il n'a même pas vu cette barrière. Il n'a même pas vu les choses qui font qu'il n'est pas qualifié pour être entendu par Dieu. Il était si orgueilleux, il n'était même pas conscient, pas un instant, de ces choses. Il n'a pas même cherché le pardon ou la miséricorde de Dieu ou son pardon. Ceci peut se passer pour nous également. Je vais prier par rapport à cela. Mais est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que vous vous êtes repenti du péché? Est-ce que vous avez cherché le Seigneur? Est-ce que vous lui avez obéi? Est-ce que vous l'avez cherché? Il y a une barrière là sur notre chemin. Et nous lisons également le récit de Saul de Tarse qui a été converti, qui est devenu le grand apôtre Paul, le grand prédicateur, le fondateur de tant d'églises dans le temps du Nouveau Testament, inspiré par Dieu pour écrire ses grandes épîtres dans le Nouveau Testament. Mais avant cela, avant d'être converti, il était un juif, un chef des juifs, jeune, et il menait cette grande mission pour persécuter les chrétiens, pour détruire leur foi. Il était un pharisien, c'est là ce qu'il était. Il a prié tant de fois, et cependant, voici la chose extraordinaire. Quand il s'est converti, oh, vous savez comment il est tombé à terre, aveuglé par cette lumière extraordinaire. Quand il a cherché le Seigneur, qu'il s'est repenti de son péché, qu'il l'a trouvé sur la route de Damas, c'est là ce qui s'est passé. Un homme appelé Ananias, oh, le Seigneur a aveuglé Saul de Tarse, et un homme nommé Ananias a été envoyé par Dieu pour l'aider, pour lui restaurer la vue. Et il dit, mais je ne peux pas aller vers cet homme, il est un persécuteur. Et le Seigneur lui dit, oh, voyez-le là à Damas, il prie, voici, il prie. Et cela implique que c'est la première fois qu'il a prié une prière qui était acceptable devant Dieu. Toutes ses autres prières étaient des prières orgueilleuses parce qu'il n'a jamais réalisé auparavant qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Et nous parlons ici de cette barrière. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. Toute créature peut venir, mais les iniquités avaient prévalu sur moi. Notre culpabilité, notre liste de péchés, et nous sommes si loin de Dieu, ceci est un obstacle. Et c'est une grande barrière qui nous empêche de prier. Il y a des gens qui prie, nous voyons ceci même dans le psaume 66 au verset 18. Je lis ce verset. « Si j'avais pensé quelque iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait point écouté. » C'est là le psaume d'après. « Si j'avais pensé quelque iniquité dans mon cœur, c'est-à-dire si j'aime mon péché, si je porte mes yeux sur mon péché, si j'aime ce que je fais qui est mauvais, et si je suis plein de cette jalousie, de cette envie, de ces désirs de convoitise, où je donne des excuses par rapport à ma malhonnêteté, si c'est là mon problème, peu importe mon péché, si je donne des excuses pour ces choses, et si je les garde en disant « tout va bien, je ne fais rien de mal », alors Dieu ne veut pas nous écouter. Parce que pour pouvoir prier, il faut que nos péchés soient pardonnés. C'est là l'enseignement de la Bible, du début à la fin. Ensuite, vous devez avoir la foi pour prier. Si vous priez que de temps en temps, quand vous êtes dans la détresse, ceci n'indique pas que vous avez la foi, parce que vous n'êtes pas un croyant en Dieu. Si vraiment vous aviez cru en Dieu, alors vous voudriez le connaître chaque jour, constamment, et lui donner votre vie et avoir cette communion avec lui tous les jours. Ainsi, si vous priez que de temps en temps, ceci indique que vous n'avez pas réellement la foi. Certaines personnes n'ont pas de reconnaissance envers Dieu. Ils ne ressentent pas leurs dettes envers Dieu. Ils ne se disent jamais « Oh, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'ai été créé, formé par Dieu et je lui dois ma vie, ma conscience, mon amour, mon affection, mes désirs. Je suis un être humain conscient et j'ai reçu ces choses de Dieu et je lui dois ma reconnaissance, ma louange, ma vie. » Mais ces gens ne pensent jamais ainsi. Et ainsi, vous ne pouvez pas prier. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pouvez pas prier. Et c'est là ce que nous dit ce psaume qui parle de la louange, de la gratitude envers Dieu pour prier. Vous ne pouvez pas prier, à moins que Dieu soit vraiment bon envers vous pour vous encourager dans des occasions rares. Mais vous ne pouvez pas prier si tout ce que vous priez, c'est « Seigneur, aide-moi pour cela, délivre-moi cela, aide-moi, aide-moi ». Non, vous devez être le genre de personne qui est reconnaissant, qui le loue, qui l'adore, qui l'aime. Et ensuite, vous pouvez lui demander ce dont vous avez besoin. C'est là ce genre de prière que le Seigneur entend. Cette prière accompagnée de louanges, de reconnaissance, de remerciement. Pour que cette prière soit sincère, il doit y avoir cette consécration. Au verset 2, « Ô Dieu, la louange t'attend dans Sion, là seront rendus les vœux qu'on t'a faits. » Combien de personnes prient sans consacrer leur vie? Ou alors ils ne gardent jamais leurs promesses? « Ô, est-ce que Seigneur, tu peux me faire cela dans ma vie? Alors je vais te donner cela. » Mais jamais les gens gardent leurs promesses et ces gens oublient. Mais cette consécration, « Seigneur, prends ma vie, fais de moi ton enfant, je vais vivre pour toi et t'aimer tous les jours de ma vie. » Est-ce que ceci fait partie de votre prière? Sinon, le Seigneur ne peut pas entendre votre prière, elle ne peut pas passer au-delà du plafond. Il y a cette barrière et il y a ce péché qui est là et qui empêche la prière d'aller vers Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Le roi David continue au verset 4, « Les iniquités avaient prévalu sur moi, mais toi, tu expieras nos transgressions. » Ceci est merveilleux. Cette barrière peut être ôtée. Cette barrière peut être complètement ôtée par le pardon de Dieu, par son amour qui pardonne nos péchés. Et ceci est là dans ce verset, chers amis, ce terme « expier » est un terme qui a beaucoup de valeur parce que c'est ce terme hébreu de couvrir ou d'expier. Et je vais vous dire pourquoi ceci est important. Uniquement 3 fois dans les psaumes, ce terme expier est utilisé en hébreu. Tu les couvriras, tu expieras, Dieu couvrira tous nos péchés depuis que nous étions petits, toutes ces choses que nous avons faites et dites, qui sont une offense contre Dieu, qui nous amènent loin de sa bonté, de sa présence, toute cette grande montagne de péchés là derrière nous, Dieu va la couvrir. Mais c'est ce terme expier, lui va ôter nos péchés. Et pour vous expliquer cela, je dois dire que Dieu ne peut pas simplement pardonner le péché. Savez-vous cela? Il ne peut pas le faire. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Mais il est Dieu, il peut tout faire. Non, il ne peut pas faire ces choses qui sont contre sa nature même, qui sont contre son être saint et sa nature même. Parce qu'il est saint et pur et parfait, il ne peut pas simplement oublier notre péché, comme si cela ne s'était jamais passé. Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas fermer les yeux au péché. Sa nature sainte, son être même, doit détruire le péché par la condamnation. Ainsi, pour que Dieu couvre vos péchés et la culpabilité de votre péché, pour que le péché soit ôté, ceci a besoin d'une expiation, ce terme expiation. Alors Dieu lui-même doit payer le prix pour ôter le péché. C'est pour cela que Christ est venu, c'est pour cela que tout l'Ancien Testament des siècles avant Christ a promis la chose la plus grande du monde, que la deuxième personne de la Trinité glorieuse, Jésus-Christ, il y a un seul Dieu, une seule essence divine, et cependant 3 personnes distinctes dans la Trinité. La deuxième personne de la Trinité glorieuse est venue dans un corps humain. Il est devenu celui qui nous représente. Et il a été cloué à la croix du calvaire, et Dieu le Père allait verser sur lui toute la culpabilité de notre péché et le condamner lui à notre place. Et lui souffrira et mourra à la croix du calvaire. Et il portera dans son âme sainte et dans son corps toute la condamnation, toute la souffrance que nous aurions dû payer pour nos péchés. Et ainsi, il va expier nos péchés. Et par cet acte, et bien sûr parce qu'il était Dieu, il allait ressusciter des morts et vivre et retourner au ciel. Mais notre péché peut être couvert et ôté, si nous nous confions en lui, si nous dépendons de lui. David savait que ceci allait se passer un jour. Les iniquités avaient prévalu sur moi, comme une barrière qui arrête toutes mes prières. Mais toi, tu expieras nos transgressions, tu couvriras nos transgressions, tu ôteras et expieras nos transgressions. Tu expieras le péché. Et ceci est merveilleux, parce que maintenant je peux prier, et maintenant mes prières atteignent Dieu, et Dieu me pardonnera. Mais vous devez demander. Vous devez reconnaître votre besoin. Vous devez vous repentir de votre péché, non pas devant un prêtre, non pas devant un pasteur, mais devant Dieu. Vous devez lui dire, je suis un pécheur. Je suis dans l'échec. J'ai transgressé ta loi sainte. J'ai été si fier et si méprisant, si fier de moi-même, si orgueilleux. Je ne t'ai jamais remercié, je ne t'ai jamais désiré. J'ai vécu pour les choses petites de cette terre. J'ai péché et j'ai gâché ma vie. J'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Je me confie uniquement en Christ le Sauveur, dans sa souffrance, dans sa mort à la croix du calvaire, parce qu'il a aimé une créature telle que moi, tant qu'il est mort pour moi, et il a ôté mon péché. Seigneur, fais-moi grâce, et vous devez vous repentir. Tu expieras nos transgressions. Et quel est le résultat? David dit cela au verset 5. « Heureux celui que tu choisis. » Ce terme traduit par « heureux » signifie « heureux, plein de joie, suprêmement heureux. » Et l'homme ou la femme que tu choisis, que Dieu élit, que Dieu choisit. Et il y a cette image de ces gens qui passent devant le roi et le roi voit pointer sur ces personnes qui sont choisies. Cette personne va être prise et va pouvoir travailler dans la cour royale. Et cette autre personne, et cette autre personne. Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour mériter cela? Est-ce qu'elles ont apporté des grands cadeaux? Est-ce qu'elles ont fait quelque chose de particulier? Non, nous n'avons rien amené. Nous nous sommes confiés uniquement en Christ. Nous avons reconnu notre péché. Nous nous sommes repentis de notre péché. Et ainsi Dieu dit cette personne et cette autre personne. Et ensuite, la bénédiction vient dans notre vie. Et nos vies sont transformées. Heureux celui ou celle que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis. Vous avez cette communion avec Christ. Vous pouvez prier chaque jour. Il ouvre votre compréhension. Vous pouvez comprendre sa parole, le but de la vie. Et il remplit votre cœur d'amour. Heureux celui que tu choisis. Et alors vous êtes certain de votre salut. Vous savez que vous avez été transformé. En vous-même, vous le savez. Et votre nature même a été transformée. Et à présent, vous demeurez avec Dieu. Vous êtes son enfant. Heureux celui que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison, de la sainteté de ton palais. Oui, nous serons rassasiés. Parce que c'est comme si nous mangions au banquet du roi, nous mangeons à sa table, nous vivons de sa vérité, même de son palais saint. Ceci illustre le fait que nous sommes acceptés par Dieu et nous lisons la parole et nous la comprenons et Dieu nous bénit et il entend nos prières. Voyez-vous, tout parle de prière dans ce psaume. Je lis depuis le début. Ô Dieu, la louange t'attend dans Sion, là seront rendus les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. Ô, voici la plus grande promesse du monde. Toute créature viendra jusqu'à toi. Mais les iniquités avaient prévalu sur moi et ce sont des obstacles à ma prière. Mais toi, tu expieras nos transgressions. C'est là la bonne nouvelle. Tu pardonneras nos péchés, tu les ôteras. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix du calvaire nous purifie si nous nous repentons. Et ensuite le résultat, heureux celui que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis. En vivant près du Seigneur, vivez pour lui et vous le connaissez et vous pouvez le prier. Et à partir du verset 6, certains commentaires sur comment le Seigneur répond à vos prières. Ces termes, ces œuvres redoutables ou merveilleuses du verset 6, ces œuvres redoutables, tu nous répondras par des œuvres redoutables, selon ta justice, ô Dieu de notre salut. Il doit être le Dieu de votre salut avant de pouvoir répondre à vos prières, voyez-vous, par des choses extraordinaires. Vous verrez que le Seigneur répond à vos prières de manière merveilleuse. Quand vous trouvez le Seigneur, alors vous recevez tant de réponses à vos prières, tant d'aide. Au verset 6, tu nous répondras par des œuvres redoutables selon ta justice, ô Dieu de notre salut, l'espoir des extrémités lointaines de la terre et de la mer. Partout les gens vivent, ces gens qui trouvent le Seigneur, peu importe leurs circonstances, ils le connaissent réellement, il entend leurs prières et il y répond. Et ensuite, David écrit ceci en poème à partir du verset 7 et les versets suivants. Cela est une image plus que de la récolte, c'est une image de comment votre vie sera pleine à présent d'un but particulier et vous serez des instruments pour Dieu et vous aurez une récolte dans votre vie. C'est une image de toutes ces réponses à vos prières, de vos bénédictions spirituelles. Au verset 7, il tient ferme les montagnes par sa force, il est saint de puissance. C'est là la puissance que vous avez à vos côtés quand vous êtes converti à Dieu. Il apaise le bruit des mers, le bruit de leurs flots et la rumeur des peuples. Comme il peut calmer la mer, il peut calmer ces situations dans lesquelles vous êtes quand vous le priez pour son aide. Et au verset 9, « Et ceux qui habitent au bout de la terre craignent à la vue de tes prodiges. » Voyez ceci, « Tu fais chanter de joie et le levant et le couchant. » Ce soleil couchant glorieux qui remplit votre cœur, la vie spirituellement est ainsi. Même si vous êtes l'une de ces personnes, il y en a beaucoup, qui chaque jour se lèvent en se sentant faibles et malades. Il y a beaucoup de gens ainsi qui se réveillent, qui sont déprimés, anxieux et qui se sentent seuls. Il y a quelque chose parfois en nous. Mais même ces personnes peuvent se tourner vers le Seigneur et se confier en lui. Et ils savent que le Seigneur va entendre leurs prières et les aider. Ainsi le psalmiste peut dire pour chacun qui a trouvé le Seigneur que chaque jour a un lever de soleil merveilleux et un coucher de soleil merveilleux parce que vous avez cette nouvelle source de joie qui vient de Dieu, cette aide de Dieu. C'est là ce que le poète nous dit. Le temps est passé, mais il y a ces versets ici qui sont une image, une analogie de ces grandes réponses à nos prières. Et voici la promesse, la bénédiction de ce passage. Vous avez ces réponses en vous et vous avez ces réponses à l'extérieur, dans vos circonstances, et cette force pour faire face à vos circonstances et ces réponses. Et le Seigneur agit dans ces choses par sa puissance merveilleuse. Et le Seigneur répond dans sa sagesse, pas toujours les choses que vous demandez, mais Dieu entend et il vous donne une réponse parfaite, meilleure que tout ce que vous pouvez demander. Ne pensez pas que je parle uniquement de choses matérielles. Si vous demandez à Dieu de vous rendre riche, peut-être qu'il va vous rendre pauvre pour vous enseigner à vivre pour lui, parce qu'il ne va pas simplement vous donner le confort, la puissance dans ce monde. Vous pensez que ceci va être une bonne chose pour vous? Non, il ne répond pas à ces prières. Mais vous priez Dieu pour qu'il vous donne ce fruit pour lui, pour qu'il puisse vous amener dans la gloire un jour, et il va répondre à toutes ces prières. Et les gens les plus influents de cette terre sont des hommes et des femmes qui prient, et partout où ils sont, le Seigneur les aide et les utilise dans toutes leurs circonstances. Nous avons vu cette promesse de la prière, et nous avons vu cette grande barrière, et comment cette barrière est ôtée par le pardon de Dieu, par son amour. Nous avons vu comment le Seigneur fait de nous une nouvelle personne et comment ceci nous amène à vivre et à expérimenter la puissance et la bénédiction de la prière. C'est là le psaume 65 de David. Oh, je n'ai pas fait de notes de prédication, chers amis, mais c'est là simplement tiré directement du psaume. C'est là l'enseignement de David sur la prière, le roi inspiré d'autrefois. Et c'est là la leçon de Dieu pour la prière. Chers amis, cherchez le Seigneur, ouvrez-lui votre cœur et réalisez votre besoin du pardon. Repentez-vous de tout péché et donnez-lui votre vie. Et alors, vous connaîtrez la bénédiction de la prière, de pouvoir être entendu par Dieu et ses réponses qu'il vous donne jour après jour et cette bénédiction dans votre vie, cette transformation. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, aide-nous chacun, nous te prions, que personne, Seigneur, n'erre dans cette vie sans prier, en vivant uniquement comme un animal supérieur, sans te connaître, sans expérimenter la puissance divine, sans être transformé à l'intérieur, sans lumière, sans compréhension, sans destinée céleste. Seigneur, aide-nous, nous te prions, viens et délivre, Seigneur, que les cœurs viennent à toi. Seigneur, nous te prions que tu puisses accorder, que nous puissions te chercher sincèrement et nous confier en Christ. Et Seigneur, accorde le salut, sois avec nous, Seigneur, et aide chacun. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.